Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and table down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et bienvenue à nouveau dans cette émission Les Manches sur 1, 2, 3, je vais y arriver. Une nouvelle semaine, un nouveau commencement avec Dago Roberto, notre grand ami chorégraphe qui nous a permis de connaître un peu son univers. Un univers très riche en images dans la nature. Il y a énormément des forêts dans les matières que j'ai pu lire et côtoyer de matériaux, des dagos. On va revenir un peu sur ce concept de l'amulette, parce que je ne t'ai pas laissé le temps la dernière fois de pouvoir nous raconter un peu plus ce mot qui raconte énormément des choses, de ta vie, de ta relation avec la vie et aussi avec ton travail.
Merci, Os. C'est un plaisir de continuer cette conversation. C'est vrai qu'on n'a jamais assez de temps. Mais oui, on parlait des amulettes. Ce que j'ai découvert quand j'ai croisé l'océan et que je suis arrivé dans un continent, j'ai découvert que j'avais beaucoup d'imagination sur ce continent. Et j'étais pas assez protégé, j'avais pas assez d'outils pour me protéger et protéger les choses qui m'importent. Et au fur et à mesure, j'ai découvert qu'il fallait construire des outils pour protéger mon corps, protéger les choses qu'il faut vraiment garder, montrer, faire monter à la surface, partager avec les gens. Et j'ai commencé à utiliser ce nom-là, ce mot, amulette, qui s'est assez chargé pour moi d'un côté à la fois magique, mais aussi fictionnel, politique, poétique. Et je pense que ça nourrit mon corps, ma manière d'être dans le monde, d'être avec l'autre, mais aussi mon travail, la manière d'articuler ma pratique, les outils qu'il faut inventer chaque jour dans le studio quand le mouvement n'arrive pas de la manière dont j'aime bien expérimenter, qu'est-ce qu'on fait, comment je m'y nourris encore, comment me rappeler des choses qu'il faut se rappeler. Il s'est souvent lié à cette notion d'ancrage quelque part. Il faut être ancré pour pouvoir voler. Tu vois, je ressens de plus en plus ce paradoxe. Tu vois, sinon on parlait la semaine dernière, je sens que je disparais. Je ne deviens pas encore réel, pas assez ancré socialement, politiquement et spirituellement, dans un contexte que souvent m'échappe dans ce continent. Du coup, parfois, il faut appeler ma mère, par exemple. C'est une amulette. Ouais. Parfois, on a un objet sur la table que j'ai mis entre nous deux.
Studio.
C'est une pierre collectée dans la plage où j'ai écrit 20 sur sa surface, que c'est du vin. Et à chaque fois que je regarde cet objet, je me rappelle, il faut souffler dans les choses lourdes. Il faut faire voler, il faut croire que les choses lourdes peuvent voler. C'est un exercice d'espoir que je traduis dans un objet, tu vois. Mm-hmm. Du coup, ça devient une amulette. Et chaque pièce que je crée, c'est une amulette que je rajoute à mon corps. C'est ça que je dis quand je dis que j'ai une anatomie toujours qui je invente. Mon envie dans la vie, c'est de traverser la vie en train d'inventer mon anatomie, de créer une anatomie qui m'a été niée parce que j'étais encore queer, qu'il fallait se cacher. Du coup, j'aime bien rajouter chaque pièce sur mon dos, tu vois, sur mes mains, dans ma poitrine, sous mes pieds, Tu vois, c'est un amulette que donne d'autres sens au monde. J'invente un monde à chaque fois que je traverse une nouvelle pièce. Tu vois, j'investis des sens et des pouvoirs d'agentivité qui m'ont éteigné et qui est nié à plusieurs corps comme le mien.
Agentivité, c'est un terme traduit justement dont on parlait la dernière fois de Judith Butler et de agency en anglais.
Ouais.
Juste une quote. Mais c'est incroyable et comment ces mots amulettes, tu nous démontres qu'il a énormément de fonctions, parce que tu parlais de beaucoup de choses, de la mémoire, mais aussi de prendre le pouvoir de soi, de la place qu'on occupe, même si elle est microscopique par rapport à l'univers entier. Et je trouve que beaucoup d'entre nous faisons ce type d'opération, de trouver des objets qui sont des armes pacifiques, je dirais, mais des éléments très très importants dans notre quotidien, dans la création, et qui transpercent, je dirais même l'art, ça dépasse les champs de la représentation, ça devient quelque chose de soi, des quotidiens, et qui nous distingue beaucoup. Moi, personnellement, j'ai beaucoup avec l'aider. J'ai une passion pour l'aider. J'aime beaucoup les jeux de société avec des dés. Et les dés, bien évidemment, ça vient d'un passé de la poésie symboliste de Mallarmé et qui a rempli toujours cette notion d'être accompagné. Accompagné par des choses qui ne sont pas tout à fait les présences physiques. On est habitué, mais de toutes ces personnes qu'on a dû laisser un peu à tes côtés, abandonnées, et qui nous attendent toujours. Comme tu disais, tu appelles ta maman comme un amulette, et c'est vrai que, voilà, il y a énormément de choses dans cet objet, dans ces objets qu'on peut appeler amulette. C'est pour ça que j'ai voulu t'entendre dire tout ça.
Tout à fait, et j'adore ce mot que tu as dit là, d'être accompagné. Je pense que, finalement, c'est ça. C'est de se sentir accompagné, c'est ça.
Oui, j'ai aussi cette réflexion, ça n'a rien à voir, mais avec les enfants autistes qui créent un monde imaginaire, qui sont toujours dans une création exponentielle, parce que justement, ils ont un besoin de peut-être quelque chose qui fait défaut à l'intérieur, et ils trouvent toujours une façon de le poser, de le mettre quelque part et de le faire réalité. Donc je trouve ça fascinant, de la capacité que le cerveau a de justement d'établir ce type de création et de dialogue, de se servir de l'imaginaire pour pouvoir être complet. Parce que je trouve qu'on est tous un peu complet, mais on nous dit les contraires à l'école, souvent. Ou parfois à la famille aussi.
Oui, et en fait, j'aime bien l'idée de ne pas être complet. Je pense que c'est très juste de mon expérience. Souvent, je travaille dans un rapport avec d'autres objets, d'autres matières. Et pour moi, ça vient vraiment d'une sensation que je ne suffis pas, je ne suis pas suffisant.
Ah, tu vas parler de ça, oui.
Tu vois, dès que je mets un objet avec moi dans le studio, je vois les dramaturgies, les mémoires, l'expérience de cet objet, l'imaginaire de cet objet. Qui c'est tellement spécifique, c'est son anatomie. Je ne peux pas remplacer cette anatomie, je ne peux pas faire semblant que mon corps peut tout dire, tu vois. Et j'adore ce qui m'échappe sur d'autres anatomies, et dès que je mets un autre corps à côté du mien, mon corps change et je change cet autre corps. Il y a l'espace entre nous deux qui tout d'un coup est rendu visible aussi. Du coup, j'aime bien cette tension d'être accompagné parce que je ne suis pas complet et je ne suis pas suffisant. D'accord. Et en fait, je pense que politiquement, c'est hyper fort, ça. Dès qu'on est apaisé sur cette idée qu'on n'est pas suffisant, il y a une générosité, un désir d'effort vers l'autre qui arrive aussi, parce qu'il y a quelque chose à découvrir, il y a une surprise, il y a un espoir qui remplit la rencontre. J'ai l'impression.
Oui, tout à fait. C'est convoquer la singularité des gens, c'est très violent. Tu avais dit ça m'a beaucoup marqué Parce que c'est vrai que quand on veut se différencier des autres, on veut dire, bon, j'ai quelque chose de différent, et ça peut être dans une provocation un peu violente, et c'est toujours difficile de faire cet équilibre entre quelque chose qui m'identifie, qui me singularise, mais qui va pas forcément dans cette notion de des combats et des violents, parce ouais. que on nous a beaucoup appris à être là-dedans, dans un combat et dans un truc hyper de la concurrence, non?
Tout à fait.
Parce que dans les marchés du travail, c'est comme ça, on a toujours besoin de cette notion de combat, sauf que ça nous transforme, ça nous déforme, je dirais.
Mm-hmm. Non?
Surtout dans des sociétés où on a une stabilité, on a des institutions qui sont là pour justement éviter qu'on devienne des sauvages.
Ouais, c'est un drôle d'amour là. Mais ouais, mais je pense que c'est très lié à ce que tu disais
oui,
tout à l'heure.
Oui, c'est vrai que c'est horrible.
oui, c'est un mot piège parfois.
Très piège, bien sûr.
Parfois très romantique, parfois très violent, parfois très inspirant. Mais bon, je pense que c'est très lié à ce truc du microscopique que tu parlais. J'aime bien penser ou croire que l'homme microscopique garde le monde entier. Et souvent, quand je travaille dans des contextes de transmission ou d'échange avec des corps vulnérables ou des situations précaires, je vois la puissance de ça. Je vois des bonnes questions qui se multiplient et des bonnes réponses qui apparaissent dans ce contexte microscopique. Comment on s'y met l'un devant l'autre dans ce contexte invisible dans l'histoire et dans l'instant du monde, mais comment ça montre les conflits du monde de manière tellement précise. Je ne sais pas, je pense qu'il y a un truc du microscopique. Je travaille beaucoup à partir de l'image, comme je te disais, et je m'inspire beaucoup de trois outils qui ont été construits pour les yeux, que c'est le microscope, le télescope et le kaléidoscope. Et j'adore la puissance poétique et politique de ces outils. De mettre sous les yeux le microscope pour rapprocher quelque chose qui semble tellement éloigné qu'elle semble ne pas exister. Le télescope qui rapproche quelque chose tellement éloigné qu'il ne semble pas exister. Le kaléidoscope qui tout d'un coup réarrange la réalité pour créer une nouvelle réalité. Tu vois, et je pense que ça, c'est très politique. Dès qu'on se rapproche pour voir quelque chose de tellement petit, il y a des détails qui apparaissent dedans. Tu vois, oui, c'est un exercice pour les yeux, je pense vraiment. C'est ça qu'on parlait sur comment j'envisage les spectateurs quand on voit une performance. C'est comment je mets mes yeux au travail aussi, dans l'effort de la rencontre.
Mm-hmm. Ça fait penser beaucoup à Carl Sagan avec tout le travail des divulgations scientifiques sur le petit que nous sommes dans cet univers vaste. On va faire une petite pause musicale aussi avec une sélection qu'a fait Dago pour nous.
Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vento que dá na vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, curimã. Curimã, e curimã, lambaio, curimã, e curimã, lambaio, curimã. Curimã, e curimã.
Revenons-nous à nos moutons. L'homme avait entendu sa remarque et lui avait rétorqué du tac au tac, blessé. « On a tous le droit d'exister, du plus petit microbe à la plus grosse baleine. » Cette phrase banale et belle avait touché mon ami et elle m'a touché. Cette citation est sortie de la correspondance indiscrète entre Arthur Dreyfus et Dominique Fernandez. Cette fois-ci, c'est Arthur Dreyfus qui écrit à Dominique. Et ça me fait penser beaucoup à justement ce dont tu parlais du petit microbe. On a tous le droit d'exister. Je trouve c'est que beau. Cette phrase, t'en penses quoi à cette phrase?
C'est beau et déjà, on parlait au début que je suis traversé par ces entités, ces figures de la forêt. Et c'est vrai que mon imaginaire est beaucoup habité par ces entités, par ces figures. Et la baleine, elle est une figure hyper importante pour moi. C'est drôle qu'elle ait apparu là. Et elle est très liée aussi à la notion de surface. Je n'ai vu une baleine qu'une fois dans ma vie. Quand je voyageais, j'étais dans la route, dans la voiture avec ma famille. Et j'ai regardé la mer qui passait là loin. Et tout d'un coup, je vois une baleine. Très petite. Lorsque la baleine est énorme. Mais c'est juste cette petite apparition. Tu vois, pour respirer sur la surface et disparaître juste après. Et j'adore ce paradoxe qui existe sur la surface, la profondeur, le microscopique et l'immensité, tu vois, et le pouvoir magique, politique de ça. Il s'est toujours pour moi lié au mystère. C'est presque la même chose, l'immensité. Et le microscopique se rassemble à la fin du cercle, ou du cycle. Tu vois, ils deviennent presque la même chose. Tu te rapproches du microscopique et ça devient le monde. Tu éloignes l'immensité et ça devient un point, tu vois. Et la baleine finit toujours pour disparaître. On a l'impression qu'elle n'existe pas. Mais dès qu'on la voit une fois, on regarde la surface de l'océan d'une manière complètement différente. Parce qu'on a l'espoir toujours qu'une baleine puisse apparaître à un moment donné. Ouais, même si je ne l'ai pas vue qu'une fois dans ma vie. Mais ça a changé.
Ça doit être magique, cet événement-là dans la vie, de pouvoir être à côté d'un animal si descommunal. Il y a cette notion de surface qui est assez intéressante dans des choses que j'ai pu parler avec toi sur qui n'est pas seulement une question de surface justement, mais qu'il y a des racines, il y a une sorte de notion de profondeur dans la surface dont on parle qui... mais dis-le toi plutôt, c'est toi qui connais mieux.
Oui. Dans mon travail, dans ma pratique, j'envisage la surface comme quelque chose qui garde le mystère. Du coup, je pense que c'est lié à cette notion d'être enraciné quelque part. De deviner qu'une petite plante, elle a une vie invisible sous la terre. Et j'adore cette notion de vibration, de travailler sur une image. Mais n'est pas être otage de cette image. Il ne faut pas que tu vois cette image. Ce qui m'intéresse, c'est surtout que tu ressentes la vibration, l'intuition d'une image derrière ou submergée, comme l'iceberg, par exemple, qu'on voit la pointe de l'iceberg visible, mais on sait qu'il y a un invisible sous la surface de l'océan, que parfois c'est beaucoup plus grande, beaucoup plus parlante que ce qu'on voit. Mon travail, c'est de comment faire apparaître l'invisible caché dans le visible. Et du coup, c'est lié à cette notion de la surface, de la rencontre avec l'autre, tu vois. C'est de « je te donne le mystère ». C'est la générosité de la rencontre pour moi.
Tu m'avais raconté un peu pourquoi et d'où venait ce travail avec le slip. Et c'est quoi ton rapport à la nudité, c'est justement, parce qu'on parle d'une surface. Quel meilleur exemple que la nudité?
Oui, comme je disais la semaine dernière, j'ai toujours dessiné des corps, et c'était toujours des corps nus. Depuis que j'étais enfant, c'était des cornues. Et j'adore l'anatomie, j'adore ce que le corps, la peau, et ce que la peau cache, les muscles qui bougent sous la peau. J'adore cette impression, cette sensation de l'anatomie, de la chair. Et j'ai dansé plusieurs années dans une compagnie où on avait une pièce qui durait 3 heures, où on était nu tous les temps. Le problème pour moi, c'est que même si j'aime bien travailler sur le corps nu et avec la nudité, je pense que c'est tellement chargé, la nudité, même si on est déjà assez habitué à voir la nudité sur la performance.
Exactement, oui.
Mais c'est tellement chargé par l'histoire de la performance, aussi par les territoires, la différence des territoires sur l'anatomie, les territoires plus sexuels ou plus érotiques. Et parfois, dans une pièce, on n'a pas le temps d'alléger ce regard qui érotise le corps nu, parfois. Du coup, de plus en plus, j'essaie de trouver des manières de tricher, de travailler sur cette sensation de la nudité, mais en train de cacher en même temps des parties qui posent plus de problèmes que des expériences sensibles que je veux. Tu vois, du coup, les slips, par exemple, c'est une possibilité. Parfois, c'est que le torse qui m'intéresse, cette sensation de nudité du torse. Parfois, non. Parfois, c'est les jambes. Du coup, j'essaye de faire plus attention à ce qui m'intéresse sur cette anatomie. Parce que je sais que dès que j'enlève les slips, il y a d'autres questions qu'il faut se mettre en rapport et qu'il faut jouer dans la composition. Pour ne pas être naïf, que les gens vont juste oublier ça. Non, ça prend du temps pour naturaliser la nudité. Mm-hmm. Les endroits plus ou moins complexes dans le rapport social, ce qu'on est habitué à voir. Cette pièce qui durait 3 heures, après 40 minutes, les gens s'en foutaient si on était avec le sexe exposé ou pas. On avait le temps. Mais c'est pas toujours comme ça.
C'est vrai. Et cette expérience pour toi vient du buto parce que tu as pratiqué avec.
J'ai été toujours étonné, traversé d'une manière tellement forte, intime, inexplicable par les images du buto, des photos que je voyais de Hijikata, par exemple. C'était un truc tellement fragile et violent, c'était une imposition et en même temps une ouverture pour qu'on rentre dedans avec peur et délicatesse. J'avais vraiment la sensation d'appartenir à ce corps-là que je voyais sur ces images. Et je pense que ces images, pour moi, sont encore plus fortes que les expériences que j'ai eues en train de pratiquer le buto, par exemple. Du coup, j'ai essayé de jamais être trop, de jamais faire un compromis avec le buto dans ma pratique, dans ma danse, mais de me laisser toujours être inspiré par l'effet de cet univers, de ce corps, de ces images, sur ma manière de bouger et de traverser le mouvement. Du coup, c'est ça. C'est de comment je peux lier la vulnérabilité, fragilité et la violence dans la manière dont je fréquente mon mouvement.
Et par rapport à la vitesse, est-ce que tu as une prédilection ? Tu travailles indifféremment avec des vitesses ou tu... Parce qu'il y a beaucoup de pratiques de buto qui travaillent beaucoup avec une vitesse extrêmement difficile à maintenir, qui est très très petite.
Oui, déjà j'aime bien la lenteur, mais je me méfie beaucoup aussi de la lenteur.
Ce que j'ai vu dans certaines images qu'on trouve sur Internet du travail d'Ago, j'ai vu son corps bouger vraiment agité. Ouais. On le voit vraiment au fond avec une notion de transparence. Il est avec le slip et on voit pas forcément toute la silhouette. On voit vraiment un corps qui s'ébat un peu avec le temps.
Oui, de plus en plus, j'essaye de faire plus attention à ce qui existe de l'autre côté de l'économie. Et du coup, j'essaye de faire attention à la profusion et la vitesse. comme une manière de dire quelque chose que la lenteur et l'économie ou le minimalisme ne peuvent pas dire, ne peuvent pas traduire. Et je pense que parfois je ressens une sorte de danger dans l'art contemporain de privilégier une sorte de savoir lent, de savoir économique, comme la chose la plus précise à dire. Mais je pense que c'est un savoir géopolitique, c'est situé géopolitiquement. Il y a d'autres corps qui viennent d'autres parties du monde, avec d'autres cosmologies qui traversent la manière d'expérimenter le monde, qui ont besoin de la profusion et de la vitesse. D'autres manières de se mettre devant l'autre et avec l'autre. Et du coup, j'essaye de faire plus attention à ça pour ne pas tomber dans le piège de la lenteur et l'économie. Ça montre toujours une pratique plus mûre, je sais pas. Plus tu vois, je suis là-dedans, ouais, t'as raison.
En parlant de cette profusion, je sais que tu écris beaucoup, donc c'est comment cet objet, est-ce qu'on pourrait décrire quelques-uns pour laisser nos auditeurs ouverts à te regarder ouais. Et un jour peut-être ça sera dans une bibliothèque.
Oui, ça revient à l'histoire de l'amulette qu'on parlait. Du coup, l'écriture, c'est une amulette, mais c'est aussi une danse. C'est une manière de continuer le mouvement. Comme le dessin aussi. J'ai plusieurs cahiers. J'ai des cahiers pour écrire, j'ai des cahiers pour dessiner, j'ai des cahiers pour assembler le mot et l'image, des collages. Et c'est une continuation de l'espace du studio pour moi et du plateau.
Pour vous y faire une idée, j'ai pu regarder. Ce sont des cahiers vraiment avec un défi des partitions.
Oui, c'est une sorte d'écriture.
Est extrêmement intéressant sur ça, sur comment il est placé sur la page, comment justement, et toutes les images qui te traversent, oui. Comme la branche qui est mordue par un.
Tout à fait, mais c'est qu'une écriture pour la chorégraphie écrite est vue sur le plateau. C'est une écriture du processus et aussi de cette anatomie que j'invente tous les temps. C'est un cahier d'investigation sur quels sont les affects. C'est quoi cette question? Pourquoi ce mot traverse mon corps? Il se déploie dans multiples images chaque matin, il transforme mon corps. Et ça m'inquiète, ça me trouble, ça me bouleverse. J'ai envie de continuer là-dedans. C'est quoi? Pour moi, c'est un mystère de ma vie. C'est le centre intouchable de ma vie. C'est l'image de la clairière. C'est ce qu'on tourne autour pendant toute la vie. Parce qu'on ressent que c'est juste à côté ce qu'on a besoin de découvrir, mais que chaque pas qu'on fait vers ce qu'on a besoin de découvrir, cette chose s'éloigne un peu. Du coup, c'est ça qui nous fait avancer, continuer dans le mouvement. C'est l'espoir de trouver ce que j'ai besoin de découvrir dans la vie.
Avec ces corps mystérieux, avec ces corps amulettes que nous avons découverts pendant ces 2 semaines avec Dago, depuis le Brésil et la relation avec la France, on vous souhaite de belles expériences mouvementées. N'oubliez de danser pour être heureux.
Merci.
Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez.
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!